VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Bienvenue à notre journal. Nigeria, la date des prochaines élections présidentielles et législatives dans le pays a été fixée au 16 février 2019. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale. Le président Muhammadu Buhari, dont l'état de santé est fragile et qui a été en traitement médical à l'étranger une bonne partie de l'année, n'a pas dit s'il briguerait un second mandat de 4 ans. Au Cameroun voisin, les autorités de la région anglophone du sud-ouest du pays ont annoncé jeudi une interdiction stricte de se déplacer, imitant la région du nord-ouest anglophone où un couvre-feu est déjà en place. La mesure intervient à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones dimanche. Le point avec Jean-Roger Bion.
Fermeture des frontières territoriales et maritimes, suspension des transports, interdiction de se déplacer entre les localités et interdiction des réunions de plus de 4 personnes dans l'espace public. Les autorités du Sud-Ouest, chef-lieu BUEA, ont annoncé dans un communiqué hier des mesures restrictives en amont de l'annonce de l'indépendance prévue par les indépendantistes anglophones. Un couvre-feu nocturne est déjà en vigueur dans la région anglophone du Nord-Ouest, chef-lieu Bamenda, depuis les manifestations du 22 septembre, et un deuxième communiqué des autorités du Sud-Ouest indique qu'un renforcement militaire est prévu dans la région et appelle la population à rester calme. Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance ce dimanche 1er octobre, jour de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit jeudi profondément préoccupé par la situation au Cameroun et a exhorté les autorités camerounaises à promouvoir des mesures de réconciliation nationale.
À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé ce vendredi de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, malgré le refus de Bujumbura. Une résolution en ce sens, proposée par l'Union européenne avec le soutien des États-Unis, a été adoptée par le Conseil par 22 voix pour, 11 contre, dont celle de la Chine, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Ghana, et 14 abstentions, dont celle du Kenya et de la Côte d'Ivoire. La décision du Conseil intervient alors que la veille, ce même organe de l'ONU avait adopté une première résolution sur le Burundi, présentée par les pays africains avec le soutien de Bujumbura, demandant d'envoyer sur place 3 experts du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le point avec Solange Niamoulissa.
La résolution proposée par le groupe africain a été adoptée par 23 voix pour, 14 contre et 9 abstentions. Walid Doudech, représentant de la Tunisie, a expliqué au nom du groupe africain que les experts vont travailler en collaboration avec le gouvernement de Bujumbura. L'ambassadeur du Burundi, Renova Tabou, a assuré que la situation dans son pays est normale et que le gouvernement a réalisé des progrès remarquables dans la consolidation de l'état de droit et dans la lutte contre l'impunité.
Tout comme la commission d'enquête de l'ONU, les 3 experts auront la charge de collecter des informations sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Mais contrairement à la commission, ils devront transmettre leurs informations aux autorités judiciaires du Burundi qui auront, elles, la charge d'établir la vérité. En Ouganda, pendant 2 jours, les travaux des parlementaires ont tourné au pugilat avec des invectives et des coups de poing. Des députés de l'opposition ont même été évacués manu militari du Parlement. Le parti au pouvoir veut supprimer la limite d'âge de 75 ans pour être candidat à la présidence. Une initiative qui pourrait permettre au président Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un 6e mandat en 2021. Il est la joie à Beni dans l'est de la RDC, notre confrère Nikes Kibel Beloka, du journal Les Coulisses, revenu hier de Kampala en Ouganda.
Le problème qui se pose en Ouganda, c'est le problème de la limite d'âge pour être président de la République. Le gouvernement actuel a retiré l'âge pendant autant d'années, mais l'âge l'a rattrapé. Et les parlementaires veulent que le projet de loi puisse être adopté pour que l'âge du président de la République ne dépasse pas les 75 ans. Or, il se fait que le président Museveni, en 2021, donc aux prochaines élections, il aura déjà dépassé cet âge. Alors, tout l'enjeu est resté celui-là. Il faut au nom supprimer l'âge limite pour être président de la République en Ouganda.
Si l'amendement passe, ça signifie que Museveni pourrait se représenter pour un 6e mandat?
Effectivement, mais l'amendement est passé pratiquement parce que le projet de loi a été accepté. et l'opposition étant minoritaire, c'est sûr que l'amendement va passer. Mais ce qui est quand même assez drôle dans cet amendement, c'est que l'amendement va supprimer la limite d'âge de 75 ans sans supprimer le nombre de mandats. Donc, une fois que l'amendement sera voté, Mousseveni aura le couloir pour continuer sans que le nombre de mandats ne soit posé comme problème.
Donc, il peut être une sorte de président à vie, quoi.
Effectivement, c'est une présidence à vie parce que c'est un projet vraiment taillé sur mesure. Et comme vous pouvez vous rendre compte, le mandat qui s'écoule, Mousseveni avait été accusé de vouloir faire succéder à son trône son fils. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. Maintenant, comme pour le fils, ça n'a pas marché, naturellement, il a piégé, je peux même dire piégé et payé les parlementaires, même si on n'a pas de preuves, pour qu'effectivement, on fasse sauter l'obstacle sur la limite d'âge.
Notre confrère Nikes Kibelbeloka du journal Les Coulisses à Beni, dans l'est de la RDC.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Corne de l'Afrique, des insurgés islamistes somaliens Shebab ont attaqué et pillé une base militaire de l'armée somalienne ce matin dans le sud du pays, tuant au moins 8 soldats. L'attaque a visé un camp militaire de l'armée somalienne situé à Barire, à environ 40 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Plusieurs témoins interrogés par l'AFP ont confirmé que les combattants Shebab avaient pris le contrôle de la base et l'avaient pillé après des combats qui ont fait au moins 8 morts. Afrique du Nord, l'aviation américaine a mené deux nouvelles frappes en Libye contre le groupe État islamique, tuant plusieurs de ses combattants. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Ces bombardements ont été menés mardi à environ 160 km au sud-est de la ville de Sirte, sur la côte méditerranéenne. L'État islamique avait profité du chaos en Libye pour s'implanter à Sirte en juin 2015. Et toujours en Libye, la justice libyenne a lancé 830 mandats d'arrêt visant des membres présumés du groupe État islamique dans le pays. Ces poursuites sont engagées à l'issue de plusieurs mois d'enquête sur le réseau djihadiste. Eric Manirakiza.
D'après le procureur général libyen, ces mandats d'arrêt visent également des personnes se trouvant à l'étranger et accusées d'implication avec le groupe djihadiste. Al-Sedik Al-Sour a parlé d'une cinquantaine de cas, précisant qu'Interpol a été saisi. Il a indiqué que son bureau dispose d'informations précieuses à la suite des interrogatoires de plusieurs de ses membres présumés arrêtés dans différentes villes libyennes. Le procureur Al-Sedik Al-Sour a affirmé que plusieurs combattants et leurs dirigeants se trouvent toujours dans le sud libyen. Ils viennent surtout de pays voisins comme la Tunisie, l'Égypte et le Soudan, mais les principaux chefs sont de nationalité libyenne, a-t-il ajouté. Enfin, Al-Sedik Al-Sour a déclaré que ses services essaient d'identifier 780 corps de combattants islamistes tués à Sirte et conservés dans des morgues à Tripoli et Misrata dans l'ouest de la Libye. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a assuré la reprise de Sirte en décembre 2016 avec le soutien aérien de l'armée américaine.
Par ailleurs, le chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi a, dans un enregistrement audio, demandé à ses combattants en Syrie et en Irak de résister à ce qu'il appelle leurs ennemis. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La date de l'enregistrement d'Abou Bakr al-Baghdadi n'est pas connue, mais son message a été diffusé par Al Furqan, maison de production du groupe État islamique. Il a souligné que, je cite, « Ce qui importe, ce n'est pas le nombre, les équipements et la force des adversaires. Il s'en est pris, je cite, aux nations infidèles et en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran qui mènent des offensives contre ses combattants en Syrie et en Irak. » Le 16 juin, la Russie a dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid aérien en Syrie. Sa mort n'a jamais été confirmée. Les États-Unis offrent 25 millions de dollars pour sa capture. Ses partisans l'appellent le fantôme tant ses apparitions sont rares. C'est à Mossoul qu'il a fait sa seule apparition publique connue en juillet 2014 à la mosquée Al-Nouri, dont le célèbre minaret a été détruit. Créé en 2014, le groupe État islamique a perdu beaucoup de terrain en Irak et en Syrie, mais parvient à perpétrer des attentats sanglants à travers le monde.
Pour terminer l'actualité aux États-Unis, le président Donald Trump et le gouvernement américain accélèrent l'acheminement de l'aide vers Porto Rico, île des Antilles ravagée par le passage de l'ouragan Maria. Et ce, face aux critiques leur reprochant de négliger ce territoire américain actuellement en difficulté. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.